RFI 23h, temps universel, il est minuit ici à Paris. Mathis Slimano vous accompagne cette nuit pour l'info. Bonsoir Mathis.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous. Dans votre journal, la COP29 et cette question posée ce mercredi par le Premier ministre albanais. À quoi bon tenir ce genre de conférence si tout le monde ne joue pas le jeu? À suivre, la nomination d'Elon Musk dans l'équipe de Donald Trump, nomination qui doit normalement être validée par le Sénat, mais ça ne sera pas le cas pour le milliardaire, on vous explique pourquoi. Et puis en Égypte, une gynécologue arrêtée pour avoir dénoncé la croissance des adultères dans le pays. Troisième jour de la COP29 sur le climat ce mercredi et deuxième et dernier jour du segment haut niveau, comme on l'appelle. C'est le moment où les chefs d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune. Le président azerbaïdjanais qui accueille la conférence a marqué les esprits, mais pas forcément dans le bon sens. Ilham Aliyev a défendu des énergies fossiles. Mais il y a quelques heures, c'est Edi Rama qui a répondu. Le ton de l'intervention du Premier ministre albanais a étonné. Il a posé une question. Quel est l'intérêt de continuer ces conférences?
J'ai décidé de mettre de côté le discours que j'avais bien préparé. Parce qu'hier, je regardais les discours dans la loge des officiels. Le son sur les télévisions était coupé. Les gens qui étaient là buvaient, mangeaient, prenaient des photos alors qu'on pouvait regarder les discours sans les entendre. Et pour moi, c'est exactement ce qu'on voit dans le monde réel. La vie continue avec ses vieilles habitudes et nos discours pleins de bonnes intentions pour lutter contre le changement climatique. Tout cela ne change rien. Pire, comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, les émissions de carbone continuent d'augmenter d'une COP à l'autre. Je viens d'un petit pays au milieu de l'Europe. Nous sommes fiers d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Mais à quoi cela sert-il pour le futur de la planète si les plus gros pollueurs poursuivent leurs affaires comme d'habitude? Que faisons-nous dans ces conférences encore et encore et encore s'il n'y a aucune volonté partagée d'aller au-delà des mots et de s'unir pour des actions concrètes?
Mardi, c'est le Premier ministre espagnol qui s'est exprimé à la tribune de la COP29. Le changement climatique a contribué à la mort de 200 de mes compatriotes, a-t-il déploré, deux semaines après les inondations meurtrières dans la région de Valence. Région à nouveau placée en alerte rouge aux pluies ce mercredi. Le danger est extrême, des débordements de cours d'eau et des inondations peuvent avoir lieu, a mis en garde l'agence météorologique espagnole. L'alerte est en vigueur jusqu'à ce jeudi midi, heure locale. Deux autres provinces, Malaga au sud et Tarragone au nord-est, sont aussi concernés par une alerte rouge. 120 à 180 litres de précipitations par mètre carré sont attendus. Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est dans deux mois, prise de fonction le 20 janvier. Ce mercredi, il a été reçu par Joe Biden. Il lui a souhaité un bon retour. Donald Trump a quant à lui déclaré que la transition serait la plus fluide qui soit. Mais avant son retour, justement, Donald Trump dévoile progressivement la composition de sa future équipe. Il a notamment confirmé qu'Elon Musk, le patron de Tesla et le milliardaire Vivek Ramaswamy, allait prendre la tête d'un département sur l'efficacité gouvernementale. Et s'il la plupart des nominations doivent être soumises au vote du Sénat, majorité républicaine, pour être validées. Cette procédure ne s'applique même pas dans le cas de Musk et Ramaswamy. Pourquoi ? Réponse de Maxime Chervaux, professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique.
Toute la difficulté et pour l'appréhension de ce nouveau poste, c'est que malgré ce que le titre dit, donc on parle de Department of Government Inefficiency, ce ne sera pas un ministère à part entière, c'est-à-dire que les ministères sont créés par acte du Congrès américain. Et donc ici, on est plutôt en présence de, alors soit une commission, soit plutôt une task force qui pourrait être soit rattachée auprès de l'agence budgétaire qui est rattachée au président américain, soit simplement une task force au sein de la Maison Blanche, de l'office du président américain, et on n'est pas vraiment en présence d'un département. Donc, de ce fait, Elon Musk, comme Vivek Ramaswamy, qui est du coup aussi nommé à la tête de cette commission, de cette task force, ne doivent pas passer par le Congrès, le Sénat américain, en tout cas, pour être validés.
Maxime Chervaux répondait à Anne Kantner. Et la future administration Trump qui continue de se dessiner, donc son nom tourné, c'est désormais officiel. Marco Rubio devient le nouveau visage de l'Amérique à l'international. Le sénateur de Floride, connu pour ses positions anti-Chine, prend donc la tête de la diplomatie. Autre nomination, et pas des moindres, celle de Matt Gaetz à la justice. Ce poste est en effet primordial pour Donald Trump pour la mise en œuvre de ses projets, comme son programme de déportation de masse des migrants ou la grâce présidentielle des émeutiers du Capitole. Des mesures facilitées car après avoir repris le Sénat aux démocrates, le Parti républicain garde le contrôle de la Chambre des représentants, laissant les mains libres au président élu. Les premiers pas de Donald Trump sur la scène diplomatique seront scrutés bien évidemment de très près au nord-est de la Syrie, région autonome dominée par les Kurdes des forces démocratiques syriennes, les FDS. C'est là que sont stationnées les troupes américaines de la coalition internationale contre l'État islamique, un contingent que le futur président souhaiterait voir rentrer aux États-Unis, selon ses conseillers. Une décision dangereuse, selon les autorités locales, que notre correspondant à Erbil, Lucas Lazo, a pu rencontrer.
Pour Amjad Osman, vice-président du Conseil démocratique syrien, le premier mandat de Donald Trump a laissé un goût amer aux forces kurdes en première ligne de la guerre contre l'État islamique.
Lors de son premier passage à la Maison-Blanche, le président Trump a réduit de 2500 à 900 le nombre de soldats américains dans le nord-est de la Syrie. L'État islamique a su à l'époque profiter directement de cette décision pour renouveler ses opérations. Ce précédent est une preuve évidente que toute réduction du soutien à la coalition internationale bénéficiera directement à Daesh.
Ces derniers jours, les forces démocratiques syriennes, épaulées par la coalition internationale, ont mené des dizaines d'arrestations de djihadistes dans le camp d'Al-Hol, où vivent en captivité de nombreuses familles de l'État islamique. Un rappel que la menace est toujours bien réelle dans la région.
Sans une amélioration des conditions de vie, nous ne pouvons pas combattre efficacement l'idéologie extrémiste de Daesh. Des efforts qui nécessitent du temps et des ressources significatives. Abandonner la région dans cette situation critique serait de nouveau bénéfique pour l'État islamique. C'est notre principale préoccupation.
Aucune annonce officielle n'a été faite à ce jour et aucune décision ne sera prise avant le mois de janvier et la passation de pouvoir à Washington. Amjad Osman veut rester confiant d'ici là quant à l'implication des États-Unis dans la lutte antiterroriste. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Et dans la région, les conflits se poursuivent. À Beyrouth, un épais nuage de fumée s'élevait ce mercredi soir au-dessus de la banlieue sud. Le secteur a été visé à 3 reprises par l'aviation israélienne, rapporte l'agence de presse Annie. Des frappes qui ne devraient pas faiblir, prévient le nouveau ministre israélien de la Défense. Israël Katz promet de ne pas lever le pied face au Hezbollah tant que les objectifs de l'État hébreu ne sont pas remplis, à savoir repousser la milice chiite loin de la frontière pour permettre le retour des Israéliens du Nord chez eux. L'État hébreu qui a annoncé la mort de 6 de ses soldats dans le sud du Liban ce mercredi et dit avoir intercepté pour la même journée 40 projectiles lancés depuis le Liban. En Égypte, une gynécologue arrêtée après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux où elle dénonçait la croissance de l'adultère dans le pays. Et ce, en se basant sur les grossesses hors mariage qu'elle avait reçues dans sa clinique. Explication Alexandre Bouchanti.
Est-ce qu'on peut échapper à sa vie ?
Alexandre Bouchanti, donc le reportage en Égypte sur cette gynécologue arrêtée après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle dénonçait la croissance de l'adultère. On va pouvoir l'écouter. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Voilà, on y revient dans un instant. La justice du Groenland qui se prononce sur le cas de Paul Watson pour la 5e fois depuis le mois d'août. Elle a prolongé sa détention. Le militant écologiste canadien va rester derrière les barreaux au moins jusqu'au 4 décembre, en attendant que les autorités danoises décident ou non de son extradition vers le Japon. Paul Watson, fondateur de l'ONG de défense des baleines Sea Shepherd, est accusé par Tokyo d'avoir causé des dommages corporels et matériels à un bateau baleinier japonais et à son équipage en 2010. On revient peut-être au reportage en Égypte d'Alexandre Bouchanti, donc sur cette gynécologue arrêtée.
La vidéo a immédiatement provoqué de vives réactions de la part des libéraux et de défenseurs des droits de l'homme qui estimaient que la gynécologue, à partir de cas isolés, généralisait en accusant les Égyptiennes d'immoralité croissante. Des internautes ajoutaient qu'elle mettait en danger la vie de ses patientes dans un pays où les crimes d'honneur sont toujours fréquents. Le syndicat des médecins a de son côté ouvert une enquête pour atteinte au secret professionnel. Le parquet l'a accusé d'atteinte à la paix sociale et d'usage nuisible des réseaux sociaux. Toutefois, conservateurs et islamistes ont rapidement commencé à défendre la gynécologue pour son intégrité, sa défense de la moralité et des valeurs religieuses. Ils ont accusé ses détracteurs d'être favorables au stupre et à la décadence. Une bataille qui continue à faire rage sur les réseaux sociaux. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
RFI, il est minuit 10 à Paris, 23h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.